C'est-à-dire qu'il y a bien eu des rendez-vous entre Maxime et nous, et qu'il y a bien eu enlèvement de corps. Mais jamais mon idée n'a été de commettre un acte que j'aurais considéré moi aussi comme un sacrilège inexpiable, et auquel Maxime Lériot n'aurait d'ailleurs jamais consenti.
Votre idée, alors ?
Ce fut simplement de donner à ma femme...
De lui donner ?
L'illusion, monsieur le ministre.
L'illusion ?
La vérité commençait à prendre forme pour Roxval.
Oui, monsieur le ministre, une illusion qui put la soutenir et lui rendre le goût de la vie, et qui, en effet, l'a soutenue jusqu'ici. Elle le croit, monsieur le ministre. Concevez-vous tout ce que cela signifie pour elle? Elle croit que son fils est dans la tombe sacrée, et cette croyance lui suffit.
Roxval baissa la tête et se passa la main sur le front. Une joie si brusque l'envahissait qu'il ne voulait pas qu'on en vît sur sa figure l'expression désordonnée.
« Ah, voilà donc ce qui a eu lieu. Il y aurait eu simulation. Cependant, toutes ces preuves... »«
Ce sont précisément celles que j'accumulais afin qu'elle n'eût aucun doute. Elle a donc tout vu, monsieur le ministre, et elle a voulu assister à tout, à l'exhumation du corps et à son transfert dans le fourgon. » Comment aurait-elle soupçonné, comment soupçonnerait-elle que ce fourgon n'alla pas jusqu'à la casemate de Verdun et que notre pauvre fils est enterré à quelque distance dans un cimetière de campagne où je vais parfois m'agenouiller près de lui et lui demander pardon en mon nom et au nom de sa mère absente.
Il disait vrai. Roxval en fut convaincu. Aucune objection ne pouvait être opposée à des paroles qui étaient l'affirmation même des faits.
Et le rôle de Maxime Lériot ?
Maxime Lériot m'obéissait.
Sa conduite depuis ?
Hélas, l'argent que je lui ai donné fut pour lui une cause de déséquilibre et d'avilissement. C'est mon grand remords. Plus je lui en donnais, plus il voulait en avoir. Et c'est pourquoi il menaçait de tout révéler à ma femme. Mais je réponds de sa nature qui est honnête et loyale. Il m'a promis de partir.
Vous êtes prêt à certifier l'absolue sincérité de votre déclaration ?
Je suis prêt à tout, pourvu que ma femme ne sache rien et continue à croire.
Nous sommes d'accord, monsieur. Le secret sera gardé. Je m'y engage.
Il prépara une feuille de papier et pria le comte d'écrire. Mais à ce moment, Hercule Petitgris désigna du doigt l'annuaire.
Là, monsieur le ministre, sous le livre, vous n'avez qu'à le pousser et vous trouverez.
Je trouverai quoi ?
La déclaration. Que j'ai rédigé tout à l'heure.
Vous saviez donc ?
Parbleu ! Si je savais, monsieur le comte n'a plus qu'à mettre sa signature.
Roxval, interloqué, déplaça l'annuaire, saisit la feuille et lut.
Je sous-signé, comte de Boisvernet, reconnais qu'avec la connivence du sieur Lériot, j'ai procédé à un certain nombre de manœuvres susceptibles d'imposer à ma femme la conviction que notre fils était enterré sous l'arc de triomphe. Mais j'affirme sur l'honneur qu'aucune tentative ne fut faite par moi ni par le sieur Lériot pour donner à mon malheureux enfant la place du soldat inconnu.
Posément, tandis que Roxval se taisait, le comte, qui semblait aussi étonné que lui, relut la lettre à haute voix, comme s'il en pesait chaque terme.
C'est bien. Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher. Je n'aurais pas écrit autre chose si j'avais rédigé moi-même cette déclaration. »
D'un geste résolu, il signa.
« J'ai foi en vous, monsieur le ministre. Le moindre doute causerait la mort d'une mère qui n'est, elle, coupable que de trop aimer. Vous me promettez donc... »
« Je n'ai qu'une parole, monsieur. J'ai promis, je tiendrai. »
Il serra distraitement la main de monsieur de Boisvernet, l'accompagna jusqu'à la porte sans dire un mot, ferma, et revint vers la fenêtre où il se colla de nouveau le front contre la vitre. Ainsi donc, Petit Gris avait deviné la vérité. Dans le chaos ténébreux, plein d'obstacles et d'embûches, Petit Gris avait discerné l'invisible sentier qui menait au but. Rouxval en était à la fois confondu et furieux. Et le plaisir qu'il éprouvait à voir cette affaire sous un autre jour s'en trouvait singulièrement amoindri. Il entendait derrière lui un menu gloussement qui devait être chez le policier la manifestation du triomphe. Et il évoqua la dent pointue, l'effroyable dent.
« Il se paie ma tête. Est-ce là depuis le début ? Par rosserie, il m'a laissé patauger. Car enfin, il aurait pu m'avertir. Et il ne l'a pas fait. Quelle brute !»
Mais son prestige de ministre ne lui permettait pas de rester dans cette position humiliante. D'un coup, il se retourna, prenant l'offensive.
« Et après ? Le hasard vous a servi, voilà tout. Vous avez probablement découvert quelque indice. »
Aucun indice. À quoi bon d'ailleurs? Il suffisait d'un peu de jugeote et d'une miette de bon sens. Voyons en quoi, monsieur le ministre. Ça tenait pas debout, votre histoire. Ça suit l'invraisemblance et la loufoquerie. Contradiction, lacune, impossibilité. Je vous en montrerai de toutes les couleurs. Un scénario déplorable. Que la comtesse y est mordue, soit. Mais vous, un ministre de première classe, voyons, est-ce qu'on jongle comme ça avec les cadavres dans la vie? Comment? Tout est combiné pour que le soldat inconnu soit bien un soldat inconnu. On mobilise des gens, des fourgons, des fonctionnaires, des généraux, des maréchaux, des ministres, enfin tout le diable et son train. Et vous avez la naïveté de croire qu'un monsieur qui a des billets de banque en poche peut s'offrir le luxe de rouler tout le monde et d'acheter une concession à perpète sous l'Arc de Triomphe. Ah ben vrai, j'en ai vu de raide, mais pas de ce calibre.